Bonjour. Peut-on changer la perception des tâches qu'on déteste? Le plaisir au travail se trouve, il se cultive, il se construit, il se façonne, mais il ne peut pas être universel ou obligatoire. Et lorsqu'une tâche nous déplaît fondamentalement, s'acharner à chercher des astuces de motivation paraît vain et vouloir convaincre les salariés qu'il y a toujours un moyen d'y remédier ou de compenser est parfois insensé. La solution est plus drastique, plus réjouissante et aussi plus osée. Comment parvenir à se mettre aux tâches qui nous rebutent le plus dans notre travail? Comment nous y prendre? Quelles sont les astuces pour cesser de les remettre à plus tard? Et quand nous n'avons pas d'autre choix que celui de nous y mettre, comment cesser de rechigner? La question m'a été posée par une journaliste et c'est légitime, car si formidable que soit notre vie professionnelle, il n'est pas certain qu'elle soit totalement dénuée de tâches que nous trouvons un poil pénibles et qui sont difficiles à déléguer. Il est même assez probable que quelques reliquats d'activités sans grande valeur ajoutée ou sans grand intérêt puissent venir alourdir notre quotidien de déplaisirs pas toujours mineurs. Je saisis donc l'occasion pour revenir sur les solutions pour faire face aux tâches ingrates au travail. Il est probable que beaucoup d'entre nous espèrent une réponse de l'ordre du truc simple. Par exemple, pour changer la perception qu'on en a, qui est une solution en vogue. Certains vont espérer cette réponse pour pouvoir la mettre en place plus facilement, dans l'espoir de transformer leur quotidien. D'autres, parce que cette solution-là abstient poliment de remettre en question l'ordre managérial établi. C'est d'ailleurs possible, et dans certains cas, et dans une certaine mesure. Le hic, c'est que les techniques de changement de perception sont parfois dévoyées en machine à auto-recadrage culpabilisante, du genre « c'est quand même pas compliqué, t'as qu'à voir les choses autrement, coco !» Ainsi, l'intérêt croissant pour les émotions et la promesse de leur maîtrise a donné lieu à des discours parfois surprenants, selon lesquels il y aurait des sentiments adéquats et des émotions inappropriées. Mal compris, le fait que l'émotion soit une question de perception personnelle génère des propositions simplistes du domaine super pénible de l'injonction normative, qui vous font passer, au passage, pour les mous du bulbe. Par exemple, les émotions étant le fruit de nos croyances, donc, il n'y a qu'à changer de croyance. Ce qui est vrai dans le cas de croyances générales devient absolument inepte dans des cas spécifiques. Imaginez, tu te sens stressé. Mais c'est comme pas compliqué, t'as qu'à revoir ton échelle interne d'évaluation de la surcharge. Ou bien encore, bah sinon il n'y a qu'à faire du sport ou de la méditation. 40 minutes par jour, en dehors des heures de boulot, s'entend. Et hop, le sourire béat collé à la frimousse, tu trimeras sans ouvrir la bouche. Rappelons-nous qu'il n'y aura jamais de bonne ou de mauvaise perception, de bonnes ou de mauvaises réactions émotionnelles face à une tâche donnée, il n'y a que celles que nous avons, qui sont parfaitement singulières et à la fois conséquences et miroirs de notre personnalité. Alors la journaliste me cite trois cas. Tout d'abord, une assistante dans une toute petite mairie qui a des dossiers de subvention compliqués à remplir. Des dossiers qui exigent beaucoup d'attention pour éviter des erreurs aux conséquences potentiellement problématiques. Et du coup, elle procrastine. Deuxièmement, il y a une agent de la SNCF dont l'une des tâches consiste à expliquer aux voyageurs les raisons des retards des trains. Et qui a du mal à descendre sur les quais de sa gare, on se demande pourquoi. Troisièmement, il y a une enseignante qui n'est pas tellement enthousiasmée par la correction de copie et procrastine à mesure qu'elle s'accumule. Alors, au rayon des trucs et astuces pour procrastinateurs patentés, on peut certainement encourager l'enseignante, qui aime son métier mais qui n'a pas envie de corriger des copies ou qui n'aime pas beaucoup ça, à tester une technique simple comme celle dite des 5 minutes, dont je vous ai mis un lien dans la retranscription de ce podcast. En revanche, face à ce qu'on perçoit comme une souffrance chez elle, quelles astuces pourrait-on proposer aux deux autres? Les conseils vides, vous les avez déjà entendus, tout autant que moi. Peut-on vraiment leur dire qu'elles n'ont qu'à changer leur monologue intérieur? Que leur procrastination, c'est juste de l'auto-sabotage? Peut-on leur servir un verre à moitié plein du genre « pensez à la chance que vous avez d'avoir un job » Ou bien pensez que grâce à votre salaire, vous allez pouvoir vous payer une semaine de vacances cet été en août en Vendée, bande de petites vénardes. Ou leur dire qu'il n'y a qu'à se récompenser une fois la tâche accomplie. Ou encore qu'il n'y a qu'à découper l'objectif en petits objectifs simples et atteignables. Ou bien qu'il suffit d'un objectif hyper enthousiasmant dans la journée pour oublier ce petit désagrément. Qu'un after work au bistrot, l'arrivée forcément, et hop, on est reparti comme en 40. Bref, qu'il n'y a qu'à positiver. Des exemples de solutions niaiseuses à la question de la motivation, vous et moi, nous pourrions tenir toute une semaine à nous raconter celle qu'on nous a servie par tombereau. Seulement voilà, le plaisir au travail, c'est pas la motivation en trucs et astuces miraculeux. Je vous avoue que je n'ai aucune envie d'imaginer des astuces. Je trouverais indigne de leur conseiller de voir les choses autrement et de lutter contre, que dis-je, de vaincre ce sentiment d'avoir envie de s'y mettre comme d'aller se faire pendre. Parce que ce serait encourager les bons petits soldats qu'elles sont probablement à sortir encore et encore de leur tranchée, jusqu'à peut-être se prendre sur le coin de la figure l'obus d'un burn-out clairement annoncé. Les émotions négatives, le stress, mais aussi la procrastination qui nous emmène faire des choses plus intéressantes, plus stimulantes et plus agréables au lieu de nous y mettre, sont bien entendu un système d'alarme destiné à attirer notre attention sur le problème, histoire de nous envoyer, au fond, un seul message: débarrasse-moi la carafe de ces toiles d'araignée-là. Je le répéterai encore et encore, et peut-être même jusqu'à la mort, la procrastination n'est pas l'ennemi que vous croyez. Elle veille à votre bien-être et lutter contre est potentiellement délétère et dangereux. Du coup, je mets un double bémol à moi-même sur les questions de changement de perception, qui sont des techniques que j'ai déjà évoquées et qui sont à utiliser avec précaution et uniquement dans certains types de situations. Par exemple, mettre du fun dans les tâches pénibles. J'avais écrit il y a quelques années que peut-être que l'une des raisons pour lesquelles nous trouvons certaines tâches particulièrement barbantes, c'est parce que nous nous y prenons de façon soporifique. C'est vrai, dans une certaine mesure, mais pas pour toutes les tâches pénibles. Ça peut encourager, par exemple, l'entrepreneur à mettre un nez un poil plus guilleret dans sa compta. En tout cas, moi, ça m'aide. Mais ça ne transformera pas le quotidien de l'agent SNCF en quête chevaleresque ou l'angoisse de l'erreur de l'employé de mairie en garden party. Changer la perception d'une tâche, c'est le deuxième exemple. Je vous avais livré, il y a quelques années aussi, une clé de l'ordre de la métaphore pour rendre plus intéressante une tâche pénible. Clé qui tient à la façon de s'y prendre en calquant une méthode appliquée à quelque chose qui nous fait vibrer. C'est une technique qui fonctionne en s'appuyant sur des processus issus de nos dons et de nos penchants naturels. Elle aussi a ses limites. Et si on peut sans doute recommander à l'enseignante de l'expérimenter et peut-être même à l'employé de mairie dans une certaine mesure, elle ne sera qu'un pansement pour l'agent SNCF qui peut la tester pour respirer un peu le temps qu'une vraie solution peut trouver à sa difficulté. Qu'une vraie solution, soit trouvée à sa difficulté, mais qui ne suffira pas à elle seule. L'utilité, la pertinence et l'efficacité potentielle de techniques visant à modifier la perception d'une tâche restent donc à mesurer en fonction du contexte et de la nature de la démotivation, sans jugement, mais surtout sans bonnes intentions. Vous savez, de celles qui font pompe du truc et astuces sans prendre la mesure de la situation. Dans de nombreux cas, comme ceux cités ci-dessus, on imagine mal pouvoir procéder à un changement de perception et encore moins le conseiller. Les solutions vont donc être de l'ordre du job crafting et consister à agir sur le management et non sur la motivation. Dans nos deux exemples, je ne peux que leur conseiller de se mettre à un job crafting soigneux, en commençant par écouter les sentiments pénibles qui les saisissent et à agir sur le déclencheur plutôt que de chercher des solutions pansement qui les laisseraient bien seuls face à leurs problèmes. J'ai surtout envie de dire à la première de s'adresser à son maire pour qu'il ou elle lui file un coup de main. Car de toute façon, c'est probablement en réalité à lui ou à elle de le faire. Et si elle travaillait dans une mairie plus grande, je pourrais lui conseiller de s'adresser à son maire pour que la tâche soit déléguée à quelqu'un qui a du goût pour ce type de dossier. Bref, pour que le maire en question, ou la maire en question, procède à un poil de management par les appétences, bien plus générateur de bien-être qu'un management à l'ancienne, par les compétences, sans se préoccuper du bien-être de chacun. Rappelons-nous que l'inappétence rend la tâche inepte et le pauvre tâcheron inapte. Quant à la seconde, j'ai surtout envie de lui dire qu'elle a clairement une activité professionnelle peu enviable et que si les réactions des usagers l'affectent, c'est compréhensible. D'ailleurs, si d'aventure une poignée d'agents se sort très bien de cette tâche, ça ne signifie nullement que tout le monde le peut et encore moins que tout le monde le doit. Je ne peux que l'encourager à aller voir sa hiérarchie et à en parler. Peut-être pour obtenir moins de présence auprès des usagers. Peut-être pour obtenir une formation spécifique pour mieux y faire face. Je vous avoue, je n'ai aucune idée de la façon dont la SNCF gère ce genre de situation auxquelles les agents sont fréquemment confrontés. En particulier, et je vous ai mis un lien dans l'article si le sujet vous intéresse, dans les zones plutôt bourgeoises où le mépris pour les agents est particulièrement marqué. Je ne sais pas non plus comment ils sont formés ou accompagnés pour y faire face. Mais en tout cas, en parler leur permettra peut-être d'explorer tout ça. Je ne peux dans tous les cas certainement pas lui balancer une vilaine injonction de verre à moitié plein ou de fatalisme qui se voudrait professionnel. Et encore moins de lui dire de faire du sport. Pour les tâches particulièrement, qui nous paraissent en tout cas particulièrement ingrates dans notre quotidien professionnel, regardons plutôt du côté d'une solution qui, au fond, ne manque pas de panache. Elle se trouve dans un job crafting de fond qui passe par la relation à la hiérarchie et demande donc du courage et des compétences relationnelles. Et inversement, qui peut être une formidable occasion de développer et de renforcer une affirmation de soi sereine, une élégance relationnelle vecteur de confiance en soi et d'estime de soi. Celles-là même qui sont solidement mises à mal par les tâches qu'on subit. La solution n'est donc pas simple, mais elle ne manque pas de panache. Ce qui en soi est vachement plus intéressant, vachement plus satisfaisant, vachement plus réjouissant. Quand une tâche est bien trop coûteuse en énergie et en estime de soi, il s'agit simplement, si je puis dire, de s'en débarrasser. Ce qui va consister à dire, à exprimer, à demander, à vous positionner fortement sur vos appétences et sur vos inappétences. Et pour cela, rien de tel qu'une communication adaptée à ce qu'on a à dire et ce sur quoi on a besoin de se positionner. Et pour ça, je vous ai mis deux liens, un lien vers un billet sur la communication non violente et un autre pour des demandes fermes sur comment utiliser l'assertivité. Cette solution n'est pas simple parce qu'elle demande du courage sous la forme d'une authenticité dont nous ne sommes pas forcément coutumiers parce que nous sommes abreuvés de croyances fausses sur ce qu'on peut ou sur ce qu'on ne peut pas dire au travail, y compris d'ailleurs les pelletées d'injonctions paradoxales, vous savez, du genre « sachez dire non » et puis en même temps « montrez-vous disponible ». Il est rare, vous savez, qu'un manager vous veuille suffisamment de mal pour refuser mordicus d'entendre votre souffrance. Et n'oubliez jamais, d'autre part, que les émotions que vous taisez n'existent pas pour les autres et qu'à la longue, elles peuvent finir par se traduire chez vous en symptômes physiques et terminer en stress. C'est donc bien parce que c'est une solution qui demande un peu d'audace, qu'elle a du panache et qu'elle sera nourrissante quoi qu'il arrive. Parce que de deux choses l'une, soit vous n'obtenez rien de la part de votre hiérarchie, et c'est peut-être l'indicateur qu'il est temps d'aller voir ailleurs, avec la satisfaction d'avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir, et donc de n'avoir rien à regretter. La deuxième possibilité, c'est que vous obtenez ce que vous demandez, et dans ce cas-là, votre stress va diminuer, et vous ne devez qu'à vous d'avoir retrouvé un peu plus de plaisir au travail, et ça, c'est bon pour l'estime de soi. Au final, travailler nos compétences relationnelles devient de plus en plus crucial dans un monde où personne n'a le temps de lire entre les lignes, de deviner un mal-être non exprimé et où il devient primordial d'être en mesure de parler et de se faire entendre. À bientôt !